C'est l'histoire des trois petits canards. Ceux qu'on a vus se promener sur la place de la Comédie-Française, désertés par les humains pendant le confinement. L'image était saisissante, comme cette période l'a été. Une période à l'issue de laquelle beaucoup se sont dit que tout allait changer. Que tout devait changer. L'écologie, la société, le rapport au travail et même le rapport au temps. Rien ne serait plus jamais comme avant. Et puis, le déconfinement est arrivé. Et puis, nous avons repris nos voitures. Les canards sont retournés gentiment se planquer le long des berges de la Seine. Le monde d'après a-t-il déjà disparu? C'est notre menu aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi. Sur France Inter.
Et trois invités pour en parler. Bonjour Paula Fortezza.
Bonjour.
Vous êtes députée des Français à l'étranger, en Amérique latine et aux Caraïbes, élue sous l'étiquette La République En Marche, que vous avez quittée. Vous êtes maintenant coprésidente du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Bonjour Alex Daucher.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Make.org et vous avez lancé sur Internet une initiative citoyenne sur laquelle on va revenir évidemment avec de nombreuses ONG qui s'appelle Inventons le monde d'après. Ce qui tombe plutôt bien en ce qui nous concerne. Et en duplex de La Rochelle, merci d'ailleurs à nos camarades de France Bleu La Rochelle. Vincent Charlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur général du think tank La Fabrique de l'Industrie. Mais pour commencer, comme tous les jours, j'accueille un confrère de la presse écrite pour connaître ce qui fait débat dans ces pages. Et c'est avec vous aujourd'hui Jérôme Chapuis, journaliste au quotidien La Croix. Bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui fait débat en ce lundi 27 juillet dans vos pages, Jérôme?
Alors c'est une question toute simple. Donald Trump a 100 jours tout juste de la présidentielle. Peut-il être réélu? On fait le constat aujourd'hui dans La Croix qu'il est obligé de revoir complètement sa stratégie. On connaît Donald Trump, l'impétueux, violent même politiquement, et qui est obligé de mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans son vin, notamment évidemment sur la question du coronavirus, qui le place dans une situation d'extrême faiblesse face à une partie importante de son électorat, l'électorat âgé.
Et d'ailleurs, on le voit maintenant, lui qui a toujours refusé de le porter avec un masque noir estampillé Maison Blanche, hein, il y a le petit logo de la Maison Blanche, et ça correspond quand même en fait à une iconographie qui est très très pensée.
Oui, c'est ce que nous dit d'ailleurs une interlocutrice aujourd'hui dans La Croix. Elle nous dit, voilà, c'est vrai que jusqu'à présent, Donald Trump a fait du masque un objet d'affiliation politique. C'était devenu très frappant dans certains États américains. Quand vous portiez un masque, c'est que vous étiez démocrate. Quand vous portez un masque, quand vous n'en portez pas, vous défiez les autorités sanitaires et donc vous étiez plutôt pro-Trump. Donc c'est vrai que ce changement de pied est spectaculaire et il a été très pensé en termes d'image, effectivement d'iconographie. C'est un masque noir, assez sombre, qui fait ressortir son visage et qu'il veut, en tout cas qu'il entend imposer comme le signe voilà qu'il défend toujours un certain ordre, la loi et l'ordre. Enfin,
vous avez parce qu'un côté guerrier...
Voilà.
Et ce que vous rappelez aussi, c'est qu'au Texas, qui est quand même un État très conservateur, hein, Joe Biden, pour l'instant en tout cas, serait en tête dans, en mesure de l'emporter.
Prudent. Ouais. Pour l'instant. Extrêmement prudent, parce que évidemment, voilà, ce que tout le monde dit, c'est que si l'élection avait lieu demain, Donald Trump serait très vraisemblablement battu. Il peut se passer beaucoup de choses en 100 jours. Et effectivement, le Texas, qui est un État important parce qu'il il envoie de très nombreux grands électeurs pour à Washington, le Texas pourrait basculer. En fait, il y a deux données. Il y a une donnée sociologique. Ça fait longtemps qu'il y a un électorat populaire qui grandit démographiquement au Texas. Et puis, il y a le fait que c'est l'un des États qui souffre énormément du coronavirus. Et donc, y compris chez des républicains, un petit peu, vous savez, ceux qui ont élu George Bush, qui était le gouverneur du Texas pendant longtemps, eh bien, c'est ces gens-là, le doute s'instille concernant la capacité de Donald Trump à gérer cette crise.
Et faute de meeting, la campagne se déplace dans les médias classiques et les réseaux sociaux. Et assez curieusement, vous le rappelez avec un peu d'ironie, me semble-t-il, l'équipe de Trump est maintenant beaucoup plus gentille avec les journalistes.
Oui, on est obligé d'être un peu ironique parce qu'effectivement, CNN, par exemple, qui était régulièrement considéré comme le média menteur, fake news, c'était devenu dans la bouche de Trump un synonyme de CNN. Effectivement, depuis quelques jours, on va voir si ça va durer, Donald Trump est beaucoup plus conciliant, les équipes de Donald Trump sont beaucoup plus conciliantes à l'égard notamment de CNN, mais aussi du reste de la presse. Et ce président qui a fait campagne en 2016 essentiellement sur les réseaux sociaux sait que cette fois-ci, il ne va pas pouvoir se passer de cette presse classique pour être élu, compte tenu de cette de la physionomie extrêmement particulière de cette campagne qui est liée au confinement et qui va donner à cette campagne un regard
une
très,
tournure
très
bien bien particulière. Merci Jérôme Chapuis. Les États-Unis à 100 jours de l'élection présidentielle, c'est à lire dans le quotidien La Croix, daté de ce jour lundi 27 juillet. En France, on n'est pas à 100 jours mais à 600, il reste 600 jours pour inventer un nouveau chemin, comme l'a dit le président Macron récemment. Le monde d'après a-t-il déjà disparu? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous jusqu'à 13h. Intervenez sur le site France Inter ou sur l'appli. C'est le débat de midi. Londonien de Klaxons et ce titre Golden Scans, toute la programmation musicale est à retrouver sur le site internet de l'émission.
France Inter. Le débat de midi. Thomas Chauvineau.
On s'intéresse aujourd'hui au monde d'après. Verra-t-il un jour ou l'autre le jour, ce fameux monde d'après? Et vous commencez à nous manifester aussi vos réactions sur Twitter, notamment WeProd Local qui nous dit « Hélas, vous avez raison, après le confinement, a tout de même permis un déclic d'une partie de la population qui est en plein questionnement sur l'utilité de leur métier ou acte au quotidien. » Bad Badger nous dit « Que pèsent trois canards ?» puisque je faisais allusion au début de l'émission aux fameux trois canards qu'on avait vu marcher devant la Comédie Française. « Que pèsent trois canards face au CAC 40 et aux dividendes des actionnaires. Les places financières continuent à tuer la planète pour le profit. Le monde d'après est mort-né, très pessimiste, Bad Badger. Et puis Cobra qui nous dit « Vous n'avez pas l'impression d'avoir servi à tout sauf à la réflexion avec vos histoires de monde de demain. Le président a sorti cette connerie et vous l'avez reprise comme des jacos. » Pas très sympa Cobra, mais enfin tout le monde a le droit de s'exprimer. Ce monde d'après, nous l'avons repris, le président en a en effet parlé, mais il n'est pas le seul. Il y a par exemple l'Académie du monde d'après avec des artistes comme Juliette Binoche, José Garcia, la chanteuse Émilie Loiseau qui a fait des propositions, la Convention citoyenne dont on a parlé, 150 propositions, les 100 principes de Nicolas Hulot. Il y a votre initiative aussi, Alex Daucher, hein, vous dirigez le site make.org. Inventons le monde d'après. On peut pas dire que ce soit qu'une directive présidentielle, le questionnement autour de ce monde d'après.
Alors nous, en l'occurrence, nous pas du tout, puisque c'est une initiative d'ONG. Hein. Il y a la Croix-Rouge, il y a WWF, Groupe SOS, Mouvement Up, Unicité. Et le sujet a été d'essayer de capter, pas forcément ce qu'elle allait se réaliser, mais où étaient les aspirations des Français. Et là, la réalité nous a vraiment frappé. C'est une envie de participer des citoyens qu'on n'a jamais vue. On a eu 1,7 million de votes en quelques semaines. On est sur des taux de participation qui sont 10 fois ce qu'on voyait jusque-là. Oui, le monde d'après, il est souhaité. Alors, est-ce qu'il va se réaliser? C'est une autre question. Mais en l'occurrence, il y a eu un choc de conscience extrêmement fort pendant le confinement, avec la peur sanitaire, la peur de la crise économique qui arrivait, et les gens ont envie d'une rupture. Alors, une rupture en fixant quelques bases sur lequel on peut travailler, et après c'est à la société civile d'une part et au pouvoir public de s'en saisir. Mais oui, il y a une rupture, oui, il y a une envie, et le retour au travail ou le déconfinement n'a absolument pas baissé cette envie d'un changement de modèle.
Vous sentez toujours la même volonté de transformer la société aujourd'hui sur les messages que vous pouvez recevoir et les gens qui continuent à participer,
oui,
à votre plateforme?
Oui, on ressent vraiment les mêmes tendances. Certaines étaient d'ailleurs présentes avant même la crise, elles se sont renforcées avec la crise du Covid. Il y a un nouveau message additionnel qui est le rapport au travail, qui a été finalement très verbalisé à partir du moment où on est recommencé à sortir du confinement. Pendant le confinement, le travail...
Parce que le télétravail a beaucoup changé.
Le télétravail va être un changement à part entière, alors qu'il n'était pas tellement présent pendant le confinement comme sujet, en tout cas.
Paula Fortezza, vous êtes députée. Vous faites partie des 60 députés qui sont censés aussi réfléchir au monde d'après. Et vous-même, vous avez, avec les députés, interrogé les citoyens, un peu comme la plateforme make.org, à votre façon.
Absolument. Et on a aussi constaté cette volonté de participation des citoyens en plein confinement, en pleine crise. On a pu voir des propositions très concrètes, très qualitatives. Nous, on a essayé de synthétiser tout cela autour de 30 propositions, et c'est ce qu'on a appelé les 4 S du jour d'après. Donc c'est santé, c'est sobriété, c'est solidarité et c'est souveraineté. Et sur ces 4 axes-là, on a des propositions très concrètes qui touchent à l'environnement, à notre rapport au travail, à la question...
Bon, par exemple, il y a un plan de rénovation énergétique des logements, il y a l'encouragement au travail partiel, on en parlait à l'instant, il y a une revalorisation des rémunérations pour les soignants de l'ordre de 200 euros par mois. Absolument. Il faut être aussi concret, sinon ça ne fonctionne pas.
Très très concret. Par exemple, l'encadrement de la publicité pour qu'on n'aille pas vers des modes de surconsommation, qu'on contacte aujourd'hui. On a des propositions sur la solidarité aussi, sur comment on finance cette crise, comment on finance cette relance. Et il y a une grosse demande de justice sociale, de justice fiscale sur ce point-là, qui, à mon avis, n'a pas été assez entendue par le gouvernement à ce stade.
Alors, pour que votre plan, en tout cas votre analyse à vous, soit très claire, vous nous parlez de ces 4 S que vous avez compartimentés. 14 propositions sont faites du côté de make.org, mais il y a aussi 100 propositions qui ont été faites par Nicolas Hulot, il y a 150 propositions par la Convention citoyenne. Est-ce que vous n'avez pas peur que tout ça finisse par se mélanger un peu et que ces bonnes initiatives, qui au départ sont louables, finissent par devenir incompréhensibles?
Tout ça converge à peu près. Je crois que les propositions se recoupent. On en a plusieurs qu'on retrouve dans toutes les propositions, ce qui veut dire que les citoyens sont assez cohérents finalement. Donc évidemment, plus de sobriété, que ce soit dans la question des emballages, de nos mobilités, de sobriété numérique, plus de souveraineté aussi sur cette question de la participation citoyenne. Ça nous est remonté très très clairement. Et on ne le voit pas aujourd'hui, par exemple, sur le plan de relance. Nous, on propose que le plan de relance soit décidé en partie par un budget participatif. Il faut que toutes ces consultations qui ont vu le jour continuent, persévèrent jusqu'à la fin du mandat.
Vincent Charlet, vous êtes économiste en duplex de La Rochelle. Sur cette question cette crainte de voir toutes ces bonnes initiatives diluées tellement elles sont nombreuses, quel est votre point de vue ?
Alors, j'ai pas cette crainte parce que la question du monde d'après, le questionnement autour du jour d'après, c'est en fait un questionnement ancien. Ça existait même avant la pandémie. Si vous faites des recherches sur Google, vous voyez que on parlait de la France d'après ou du jour d'après, par exemple, en pleine crise des Gilets jaunes. Donc, si on se dit que le sujet devant nous, c'est réussir à produire mieux, consommer mieux, pour que chacun puisse vivre de son travail dans un environnement durable. C'est une question compliquée. C'est pour ça qu'on met autant de temps à trouver des éléments de solution. Mais la question ne va pas se dissiper. Bien sûr, elle reprend un accent un peu fort, pour ne pas dire un peu angoissant, à chaque épisode de type pandémie. Mais tout ça forme une chaîne et le questionnement sous-jacent, il est en gros le même. Je pense aussi que les décideurs politiques ont un rôle particulier à jouer parce que, contrairement à ce qui a été dit, je pense quand même que les citoyens consommateurs ont des aspirations qui sont en partie contradictoires ou en partie pas stables. Vous, moi, nous tous, on voudrait plus de bio, mais on trouve que c'est trop cher, donc on n'en achète pas à chaque fois. On veut évidemment un environnement plus durable, mais je vous rappelle que les constructions de piscines particulières ont connu un pic cet été du fait même du confinement, ce qui est assez paradoxal. Donc il faut, au bout d'un moment, parmi toutes ces aspirations, que le décideur, qu'il soit local, national, européen, propose un projet collectif qui fabrique du consensus et qui puisse inscrire ça dans les règles, dans la loi, dans les prix. Et il n'y a que ça véritablement qui change en profondeur et dans la durée les comportements.
Alex Daucher.
Oui, en fait, c'est très intéressant parce que, en fait, il y a quand même une petite nuance, c'est que le projet, la consultation, les propositions de Paula Forteza sont un parti pris politique par rapport à son groupe, de même que le projet de Nicolas Hulot. Notre sujet, nous, c'était pas ça. Notre sujet, c'était justement, comme il vient d'être dit, d'aller chercher la part d'estomac commune, c'est-à-dire les consensus sur lequel on peut tous avancer. Alors bien sûr, tout n'est pas consensuel et on peut pas avancer sur tout de façon consensuelle. En revanche, la grille des 14 points qu'on a évoquée, c'est vraiment une grille qui est opérante à la fois pour les pouvoirs publics, pour trouver des majorités, pour avancer en cohérence avec la population, plutôt que d'aller s'affronter ou en tout cas même se neutraliser sur des vrais clivages. Je prends un exemple sur les
14 points.
Ouais, un des points, c'est sur le modèle de société. Changer le modèle de société. Tout le monde est d'accord d'aller envisager...
Facile à dire, mon bon monsieur.
Exactement, des nouvelles manières de calculer le PIB, en tenant compte de la qualité des gens, être plus responsable à tous les niveaux.
La qualité de vie, déjà.
En revanche, la qualité de vie, exactement. En revanche, sur le revenu universel, sur les nationalisations, sur la réduction du temps de travail, ce qu'on voit apparaître, c'est plein de propositions, mais qui ne sont pas des consensus, qui sont des clivages. Et c'est là où le politique doit faire son travail. En revanche, il doit faire son travail en soupe le consensus du clivage, là où aujourd'hui, le débat politique, il est surtout sur les clivages. Aujourd'hui, la grande bonne nouvelle, c'est que l'épisode qu'on vient de vivre et le débat sur le monde d'après, il met en évidence une communauté d'épreuves entre les Français qui nous permettrait peut-être de nous réconcilier sur des axes forts. Et c'est aux politiques de s'en saisir, mais c'est sur la table et on peut avancer.
Alors les politiques, justement, sur le mail ledebatdemidi@radiofrance.com, Eric nous écrit « Pour moi, le monde d'après n'est qu'une invention des politiques bien relayée par divers intervenants médiatiques. En dehors de mieux équiper les hôpitaux, ce qui semble déjà n'avoir pas fait long feu, et d'indemniser les commerces et entreprises, que pouvons-nous espérer ?» Paula Forteza, vous êtes visé.
Oui, non, je voulais revenir sur le fait...
Le monde politique, c'est vous.
Ah, c'est un grand mot. Sur la question des clivages et de comment construire du consensus. Je crois aussi que le jour d'après, c'est aussi une attitude que doit adopter le politique, de plus d'humilité, de plus d'écoute, et une sortie de crise qui a été très dure à vivre pour les Français, très traumatique. Il ne faut pas se relancer sur des sujets clivants qui attisent les tensions. On entend beaucoup ces derniers jours les questions autour du séparatisme, de l'ensauvagement de la population française, avec des discours très régaliens, très sécuritaires. Je ne pense pas que ça soit la bonne façon d'appréhender le jour d'après. Mais nous avons, encore une fois, toute une feuille de route. Les propositions de la Convention citoyenne du climat sont aussi une très bonne feuille de route. Il faudra très vite les mettre en œuvre. Et nous, on va, le politique, en tout cas les parlementaires, on va suivre de près cette mise en œuvre pour qu'elle soit faite le plus rapidement possible.
Et bien justement, sur la mise en œuvre des décisions, des propositions en tout cas de la Convention citoyenne, on va en parler juste après le disque, parce qu'on peut se poser la question de comment faire en sorte de mettre en œuvre ces propositions sans les sacrifier à l'autel de la fameuse relance dont il est aussi beaucoup question. On attend toujours vos réactions sur le site de France Inter ou sur l'appui avec le bouton Intervenez. Et puis on continue, on est ensemble jusqu'à 13h, c'est le débat de midi et vous êtes bien sur France Inter.
I was 5 years ago, at an area code, so I could get you on the phone, the old you I'm looking for. My favorite memory, you call me your majesty, and we let this whole castle fall down, oh what a tragedy. Do I still live in your head? Do you still live with regrets? Cause I do, I do. Do you got something on your chest? Do you wish we weren't finished yet? Cause I do, I do. Come bring me all your sins, I'll forgive all of them. If you put a band-aid on the scars, I'm no good at hiding them. Would you give me your heart again? Or at least let me borrow it. If I could just see you, we don't even have to talk, I'll take an argument. Do I still live in your head? Do you still live with regrets? Cause I do, I do. Do you got something on your chest? Do you wish we weren't finished yet? Cause I do, I do.
Elle s'appelle Jessie Reyes et le titre de la chanson c'est I Do et il est midi 27.
France Inter. Thomas Chauvineau. Le débat de midi.
Et on se demande de quoi le monde de demain sera-t-il fait aujourd'hui dans le débat de midi avec Paula Fortezza qui est députée des Français de l'étranger en Amérique latine et aux Caraïbes, Alex Daucher qui est fondateur du site make.org et Vincent Charlet qui est économiste et directeur général de la fabrique de l'industrie. Je le disais juste avant le disque, il y a l'une des propositions de la Convention citoyenne, c'est par exemple de limiter les lignes d'avion intérieures, tout du moins tout trajet de qui serait compensable avec le train en plus de 4 heures, en moins de 4 heures, devrait être effectué et choisir le train plutôt que l'avion. Vincent Charlet, est-ce que c'est compatible avec le fameux plan de relance dont on parle, ce type de mesure ?
Alors une mesure comme celle-là, oui je crois. Enfin, en tout cas, je pense que sa faisabilité a été testée. Dans l'ensemble, il ne me paraît pas spécialement difficile d'envisager des mesures dites du monde d'après ou préparant le jour d'après qui soient globalement compatibles avec les lois de l'économie, c'est-à-dire qu'il existe des trajectoires imaginables pour un devenir économique serein qui permettent, parce que ça, à mon avis, c'est ça le principal défi qu'on a devant nous, de réduire progressivement les émissions de carbone. C'est quand même ça le principal défi.
Mais qu'est-ce que vous faites des lignes aériennes Paris-Bordeaux, Paris-Toulouse, Paris-Marseille, même si l'État vient d'octroyer un plan de soutien à Air France de 7 milliards d'euros? L'État ne pourra pas tout le temps octroyer des plans de soutien à Air France de 7 milliards d'euros?
Non, je suis bien d'accord, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que on n'arrivera à rien si ce genre d'arbitrage n'est pas ancré dans les prix. Il faut que les consommateurs, les entreprises, l'État se fassent à l'idée progressivement que émettre du carbone et polluer va devenir de plus en plus cher et que le carbone deviendra un bien de luxe, si on peut le dire comme ça. Et sincèrement, c'est un défi pour les entreprises, certes, mais aussi pour les citoyens consommateurs. On vit dans un pays dans lequel certains ronds-points sont encore occupés par les gilets jaunes. Et c'est pour moi le principal défi de nos décideurs que de réussir à trouver une sortie par le haut de cette crise qui nous a tous frappés il y a quelques années déjà. L'équation n'est aujourd'hui pas résolue. On veut un avenir économique prospère pour chacun d'entre nous, ce qui est bien normal. On veut un climat durable, ce qui est bien normal aussi. Et pour l'instant, on ne sait pas dire autrement que, il faut que se déplacer coûte cher, en tout cas que émettre du CO2 coûte cher. Et pour l'instant, les citoyens ne sont pas plus prêts que les entreprises, même plutôt moins, pour vous dire le fond de ma pensée, à payer le prix, le juste prix de cette pollution, de cette émission.
Alors,
CO2.
Ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on aille sur une augmentation des énergies carbone, par exemple?
Oui, bien sûr.
Augmenter le prix de l'essence.
Je vois pas d'autre solution et je ne connais pas de chercheur économiste intellectuel qui ait réfléchi au sujet, qui ait imaginé une autre solution. Il faut bien que les externalités négatives, comme on les appelle, finissent par se traduire dans les prix, exactement comme on a fait avec le paquet de cigarettes, dont le prix unitaire a augmenté et ça a fini par réduire le nombre de fumeurs. Il faudra bien réussir à emprunter cette voie-là et c'est pour ça
Paula Fortezza, est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer aux citoyens que le prix de l'essence va augmenter pour sauver l'environnement?
Il faudra à un moment donné en arriver là, mais avant, il faut mettre en place les alternatives pour que les citoyens puissent continuer à aller travailler, à se déplacer de façon normale. Donc d'abord les lignes de train, d'abord les mobilités durables, d'abord les alternatives qui permettent aux gens de poursuivre leur activité quotidienne. Nous, on s'était beaucoup battu dans l'hémicycle pour avoir une éco-conditionnalité des prêts, des aides de l'État aux grandes entreprises. C'est-à-dire que, avant de sauver ces grandes entreprises, il faut leur demander de travailler sur la transition écologique de leur modèle d'affaires, de leur industrie, et à sauver aussi les emplois en France, en relocalisant, en vraiment faisant en sorte qu'il n'y ait pas de crise sociale majeure après cette crise sanitaire. Ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que écologie n'est pas nécessairement, disons, incompatible avec l'économie. On a déjà beaucoup d'études qui montrent que l'industrie verte va elle aussi produire de la croissance. 2,1 points de PIB, 440 000 emplois d'ici 2028. C'est ce que rappellent plusieurs enquêtes, plusieurs études. Donc il faut accompagner petit à petit l'industrie à évoluer. Et il faut aussi que nous on défend cette idée de sécurité sociale environnementale, c'est-à-dire que les personnes qui seront touchées dans leur emploi par cette transition écologique, il faut pouvoir les accompagner et il faut pouvoir les former aux nouveaux emplois de demain.
Relocaliser, par exemple, ça fait partie des 14 propositions que vous proposez, enfin ce consensus que vous proposez sur tout ce qui a été posté sur votre site, hein, vous le disiez tout à l'heure, Alex Daucher. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut le faire?
Alors en fait, je vais être assez provocant par rapport à ce qui a été dit. Je pense que les citoyens, ils sont en avance sur tout le monde. Au sens en avance sur les entreprises et en avance sur les pouvoirs publics, sur leur volonté. Le bio, il est sorti pas parce qu'il a été décrété en haut, parce que la demande est arrivée et que ça a explosé et que tout le monde s'est adapté par rapport à ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le vrai blocage sur la mise en œuvre, c'est pas l'économie. Parce qu'il y a des solutions sur l'économie. Le vrai blocage de la mise en œuvre, c'est le consentement à la société. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a sur des mesures qui pourraient radicalement changer les choses, c'est comment est-ce qu'on les met en œuvre sans que ça soit pas une bronca totale. Les Gilets jaunes nous ont montré ça. À chaque fois,
je pense que si vous expliquez que vous allez devoir augmenter le prix de l'essence, par exemple, la bronca risque d'être totale, effet.
Mais faut partir de la gouvernance. Aujourd'hui, nos sociétés, le problème aujourd'hui, c'est que la société est tellement fragmentée qu'être élu ne suffit plus pour gouverner. Le lendemain matin, on n'a plus les moyens d'agir. Donc, la vraie question de la mise en œuvre des mesures de la Convention citoyenne ou des mesures qui sont proposées, c'est comment est-ce qu'on construit des systèmes qui font que les gens acceptent des décisions qui ne vont pas forcément dans leur intérêt.
Alors, je vous pose la question.
C'est ça le sujet.
Comment ?
Eh bien, il y a une seule solution, c'est de changer de braquet sur la participation des citoyens à la vie publique. Aujourd'hui, le fait de voter une fois tous les 5 ans n'est plus suffisant pour conférer à l'élu la capacité d'agir. La véritable rôle du citoyen, son impact, c'est de trouver les moyens d'agir tout au long d'un mandat. Et donc les outils de participation qui vont de consultation, comme on vient de le voir, de concertation, de convention citoyenne, de budget participatif, doivent faire que sur n'importe quelle politique publique, on doit avoir sur la durée d'un mandat 10% des gens qui s'expriment. Donc ce changement-là, c'est la clé de survie de notre modèle de démocratie représentative, parce que c'est sa clé qui lui donne du pouvoir. Donc aujourd'hui, le débat n'est pas un débat de savoir si l'économie va le supporter ou pas, c'est est-ce que ces mesures vont avoir une acceptation sociale qui leur permet de se mettre en œuvre, et c'est ça qu'il faut changer en priorité.
Sur le site de France Inter, ces messages qui continuent de nous arriver, celui-là que je vous lis et qui va d'ailleurs un peu à l'encontre de ce que vous venez de nous expliquer, Alex Daucher. Producteur de légumes en vente directe, nous avons vécu et été portés par la réponse des citoyens au coronavirus. Les gens venaient, revenaient, étaient heureux de nous trouver. Chaque semaine, nous n'avions pas assez de légumes. Aujourd'hui, c'est le soufflet. Restent les fidèles familles qui nous soutiennent. Et nous sommes plutôt attristés de ce monde identique à l'ancien. La peur en plus.
En fait, faut pas se leurrer. Le monde d'après, c'est pas le monde de demain matin. Le monde d'après, c'est les quelques bases qui vont faire que 2021 ne ressemblera pas à 2019. En fait, c'est ça dont on parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une volonté de changement qui est là, qui est en place. En revanche, le consentement à la société est quand même un drame qui va bloquer beaucoup de choses.
Vincent Charlet, selon vous, quelles initiatives il faudrait mettre en place? Quelles initiatives pourraient-elles être mises en place tout de suite, sans que ça coûte, puisque la question est là?
Mais justement, je suis désolé de me répéter, mais je crois vraiment que c'est peut-être ce point qui nous oppose dans la discussion ou dans le débat. Je prends un exemple local exprès. Le fait de favoriser les mobilités douces, et en particulier le vélo, dans une commune, et de développer un plan de circuit de circulation bas carbone, on va dire. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur le principe. Et lorsqu'il faut choisir le tracé, il peut se passer 2 ans de débats qui sont un petit peu démoralisants, parce que chacun voudrait que la piste cyclable soit pas trop loin de chez lui, mais pas devant, parce qu'il veut garder sa place de parking. Et le débat des Gilets jaunes, c'est la même chose à l'échelle nationale. Je maintiens que les citoyens, aussi généreux qu'ils soient et aussi sincères que soient leurs aspirations au monde de demain, ont des aspirations qui sont, au bout d'un moment, contradictoires. Et parfois, d'ailleurs, peu stables dans le temps, et qu'il faut que le décideur tranche. Il faut que le décideur ait un certain talent pour construire du consensus, évidemment, et à la fin, propose un chemin, une taxe. Et je maintiens que nos comportements agrégés ne changeront pas significativement si les prix ne nous y invitent pas.
Alors, le décideur, c'est en partie, le Parlement, du moins, oui. Propose-t-il et vote-t-il des lois? Est-ce que vous avez le pouvoir de décider, d'imposer ce qu'il faudrait imposer?
Alors moi, je vais être à contre-courant. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux citoyens. Je crois que les citoyens, les Français, nous ont montré pendant cette crise à quel point ils peuvent être généreux, à quel point ils peuvent être courageux, à quel point ils peuvent être solidaires. Et ils ont été aussi surpris eux-mêmes de découvrir qu'un style de vie plus sobre peut être agréable et peut bien leur convenir. Donc moi, je crois qu'il faut construire sur cette envie des citoyens de faire différemment. Et il y a différents modèles. On a par exemple l'économie sociale et solidaire qui commence à se développer de plus en plus.
Mais longtemps que ça existe, l'économie sociale
mais là,
et solidaire.
Ça commence à prendre beaucoup plus d'aplomb. Il faut investir dans cette façon différente de faire de l'économie, plus locale, en circuit court. Il faut aussi qu'on... Il y a un sujet qui n'a pas été assez traité, je pense, par tout ce monde d'après, c'est la question du numérique. Le numérique nous a permis, pendant cette crise, de télétravailler, de rester en contact avec nos familles, d'avoir une continuité pédagogique, d'avoir une continuité du service public, de se divertir. Et aujourd'hui, on ne voit pas de plan numérique ambitieux qui permette aussi d'avoir un développement économique au niveau territorial. Le numérique peut être un outil pour se développer au niveau territorial, pour faire plus de télétravail et pour aller vers une société plus écologique.
Assez récemment, 265 personnalités signaient une tribune, dont Lilian Thuram, Béatrice Dalle, dans le journal Le Monde, à l'initiative du cinéaste Magali Torri, qui disait qu'il ne souhaitait pas choisir entre la relance économique et la préservation du vivant. Est-ce que, selon vous, Axel, Alex Daucher du site change.org, c'est ce choix-là qui est à faire entre, d'un côté, la préservation du vivant et de l'autre, la relance économique?
Non, moi justement, je pense pas du tout. Je pense que le problème n'est pas l'économie. Je pense que le problème, c'est réussir à construire des décisions collectives qui soient acceptées.
Oui, mais comment? Parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites qu'il faut un consensus. Comment établit-on le consensus là-dessus? Et comment ça finit par passer ensuite dans la société française?
En l'occurrence, ça veut dire que pratiquement, toutes les politiques publiques doivent être conduites de façon participative. Elles doivent être co-élaborées, co-décidées, co-mises en œuvre, co-évaluées avec 10% de la population. Premier axe. Et deuxièmement, ça change le rôle du politique. Le rôle du politique, au lieu d'être celui qui a des idées magiques, c'est celui qui sait comment les mettre en œuvre. Donc on est en train dans un basculement où l'urgence absolue, c'est de mettre en œuvre les politiques avec les citoyens pour qu'il y ait un phénomène d'appropriation. Sinon, il y a un mur qui se met en face. Et la bonne nouvelle, c'est que sur tous les grands sujets de société, il y a des consensus latents. Bien sûr, tout n'est pas consensuel, mais il y a des consensus.
Vous voyez que ceux qui ont pris leur clavier pour répondre au questionnaire que vous aviez proposé sur Internet, les gens qui... Oui, mais vous, je veux dire, vous vous adressez forcément à des gens qui sont convaincus et qui ont déjà réfléchi à la question. Et qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu 300 000 réponses, à peu près, c'est ça.
On a eu 1,7 million de votes,
les gens étaient représentatifs. Mais sur les 65 millions de Français, on est quand même loin d'avoir ce consensus dont vous parlez.
Un sondage sort des solutions avec 1000 personnes, donc on est capable d'avoir des choses qui reflètent la totalité. Mais aujourd'hui, il faut se concentrer sur ces consensus avant d'aller chercher les clivages. Et il y en a des consensus. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'a dit l'intervenant précédent. Je pense que c'est à force de considérer que finalement, il ne faut pas faire confiance aux citoyens, c'est juste quelqu'un qui va agir en fonction d'une taxe qu'on va mettre, que la politique et le pouvoir public, c'est en train de se déconnecter du citoyen. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'arrêter de le considérer comme un objet, ce citoyen, mais comme un acteur qui va être co-élaboré dans le respect de la démocratie représentative, mais qui va co-élaborer et mettre en œuvre. C'est la clé de survie de la démocratie qui est en jeu.
Midi 41 sur France Inter, on s'interroge sur le monde d'après dans le débat de midi. On se pose la question jusqu'à 13h. Après le disque, on sera au téléphone avec Margot Missica, qui est productrice de documentaires et qui travaille depuis plus de 2 ans, donc bien avant le Covid, sur un projet appelé Il est temps. Le monde d'après, ça fait donc longtemps qu'on l'attend. Ce sera juste après Terre Noire.
Bien que c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. J'ai jamais su bien lire les astres du futur, alors je te dis ces choses, ce monde dont je suis sûr. Mon amour, tes coups d'éclat, tes quelques coups de clé ont pu me desserrer, enfin libérer le cœur. Être en queue avec ce que je ressens, avec ce que tu es, j'suis tout le temps intéressé par les choses que tu me fais. Genre, l'hiver à l'envers. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Je vois bien que c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi? Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi? Est-ce qu'on sera team divorce ou pas? Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi? Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras?
faudra retenir nos caméaméas et faire encore une fois l'été à l'endroit. Mon âme sera vraiment belle pour toi. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Je vois bien, c'est l'amour. En tout cas, ça y semble.
Mon âme sera vraiment belle pour toi, c'est le titre de cette chanson de Terre Noire. En un seul mot, Terre Noire, une terre noire pour un maillot vert, puisque tous les deux, ils sont frères, viennent de Saint-Étienne.
France Inter. Le débat de midi. Thomas Chauvineau.
Et on s'interroge pendant ce débat de midi sur le monde d'après avec mes trois invités, Paula Fortezza qui est députée, Alex Daucher qui est fondateur de Make.org et Vincent Charlet qui était économiste. Pendant le disque, on se disait, je me permets de raconter un petit peu les coulisses de l'émission Alex Daucher, mais je vous disais que ces citoyens concernés, investis, dont vous parliez pour moi, devaient représenter un infime pourcentage de la population française, et vous me disiez de manière assez véhémente d'ailleurs, mais non, pas du tout, aujourd'hui on a les outils qui nous disent tout le contraire de ce que vous nous dites là. Alors ces citoyens investis qui pourraient influencer les politiques publiques, ils sont nombreux.
Oui, sur des opérations récentes qu'on a fait sur trois villes pour les municipales, il y a eu 20% de la population qui a participé. 20%, c'est quasiment la moitié des gens qui ont voté. Donc on est sur des volumes très très importants de gens qui vont participer de façon légère. Et puis certains vont aller un peu plus loin, certains vont s'engager, pas forcément pour décider la place du politique, mais pour aider à la mise en œuvre, pour aider à l'évaluation, pour co-penser les choses. Il faut bien comprendre que cette participation citoyenne tout au long du mandat, c'est pas un truc moderne, sympa, rigolo et branché. Ce truc-là est la condition sine qua non pour que l'action publique puisse se mettre en œuvre.
Oui, mais quand vous voyez les taux d'abstention encore récemment aux élections municipales, qui pourtant sont généralement assez peu touchés par l'abstention, enfin moins touchés en tout cas que les autres, pour moi ça me paraît être en contradiction avec votre discours.
Pas du tout, parce que c'est justement cette envie de participation citoyenne, elle est proportionnelle à la baisse de l'envie de voter. Aujourd'hui, les gens ne croient plus dans le fait que leur bulletin de vote va changer leur environnement, mais ils sont prêts à s'engager pour eux-mêmes contribuer et faire des choses. Et c'est ce basculement de modèle qu'il faut mettre en place, encore une fois, pour la condition sine qua non, est-ce que l'action publique puisse se mettre en œuvre dans une société aussi fragmentée que la nôtre.
Sur France Inter,
si vous me permettez un point.
Vincent Charlet, économiste, rapidement alors, parce qu'ensuite nous devons prendre Margot Mexica qui est en ligne avec nous. Je vous écoute.
Le point, en effet, n'est pas de savoir si ces témoignages de citoyens sont représentatifs ou pas. Je pense qu'ils le sont. Le problème, il est que habitent dans une même personne un citoyen et un consommateur qui sont pas toujours d'accord. Et ça a été longuement documenté depuis déjà un moment, sur le bio par exemple, mais pas uniquement. Et c'est là où je pense que il faut réussir à faire le pont entre les deux. Il faut que le consommateur soit d'accord pour payer les prix qui découle du monde d'après tel que le citoyen le veut. Et c'est ça toute la difficulté. Et si je me permets d'insister là-dessus, c'est parce que lors des prochaines échéances électorales, il y a des gens qui savent très bien faire commerce des clivages, justement, qui pourront assez facilement récupérer les marrons du feu en disant, au fait, alors le monde d'après, il est où et est-ce qu'on nous aurait menti? Je pense que c'est ça le grand défi politique qu'on a devant nous. C'est de pas se mentir et de pas raconter d'histoire sur ce qui sera facile et ce qui sera moins difficile pour cette transition.
Nous sommes aussi au téléphone avec Margot Mexica. Bonjour Margot Mexica.
Bonjour.
Vous êtes productrice de documentaires et vous travaillez depuis 2 ans sur un documentaire qui sera diffusé sur Arte, mais aussi les chaînes de la NHK, la télé publique japonaise, qui se fonde sur un questionnaire que vous avez donc mis en place il y a plus de 2 ans, qui s'appelle « Il est temps ». Vous n'avez pas attendu le Covid pour penser le monde d'après.
Non, mais je pense que c'est ce qui a été dit déjà un peu. C'est-à-dire que on a commencé à travailler sur cette question parce que il y a eu plein de mondes d'après et il y aura encore plein de mondes d'après à venir, je l'espère. C'est un processus, c'est-à-dire que ça s'arrête pas À un moment donné, nous, on a travaillé pendant plusieurs années sur un questionnaire en ligne qu'on faisait avec France Télévisions qui s'appelait Generation What, qui s'adressait à la génération des 18-34 ans, donc qui était vraiment axé sur les questions de rapport à la société, mais aussi à la famille, etc. Et on a vu depuis 2013, entre 2013, 2016, 2018, augmenter significativement dans toute l'Europe la présence, l'importance de l'écologie et de tous les sujets que vous avez abordés là chez les jeunes. Et donc pour nous, c'était vraiment un point de focalisation en se disant en fait, on est en train d'adresser la première génération qui va réellement vivre les conséquences du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, on peut l'appeler comme on veut, qui impacte tout notre rapport à la société.
Dans votre démarche, vous adressez à plutôt des jeunes, mais enfin tout le monde peut répondre au questionnaire. On va d'ailleurs mettre le lien en ligne sur le site de France Inter pour que les auditeurs puissent également y répondre. Vous avez reçu environ pour l'instant 300 000 réponses qui seront ensuite étudiées par des sociologues, mais parmi lesquelles des réponses de jeunes Français, de jeunes Allemands, de jeunes Américains, de jeunes Japonais. Est-ce qu'il y a des différences
alors,
en fonction de l'endroit où on vit dans cette planète?
Voilà, alors on commence tout juste à rentrer dans la base de données, mais il y a effectivement la possibilité de répondre et de voir en temps réel ce qu'on appelle nous les résultats bruts, c'est-à-dire ce que les gens ont répondu sans aucune correction, sans aucune analyse, etc. On a effectivement là, je regardais justement les résultats, donc ce matin on est à plus de 320 000 répondants, sachant que les répondants répondent en moyenne à 100 questions sur les 132 qui sont proposées. Il y a une large majorité de Français, mais on a effectivement près de 100 000 Allemands et d'autres nationalités. On a observé, un des premiers constats qu'on a fait au tout début des réponses, donc ça peut encore évoluer évidemment, et c'est sur les résultats bruts, donc je mets quelques précautions, des divergences notamment entre les Français et les Allemands, et notamment sur les questions du rapport à la violence et au respect des institutions, et à la nécessité d'imposer ou de revendiquer par des moyens violents pour faire changer les choses.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, par exemple, on a une question qui est pour faire entendre sa voix, la violence est nécessaire, acceptable, contre-productive, inacceptable. Les divergences de résultats entre la France et l'Allemagne, encore une fois, qui sont visibles sur le site, sur cette question, sont très fortes en termes de ce qui est nécessaire ou acceptable versus ce qui est contre-productif ou inacceptable. Et pareil, on a une question sur la dictature verte, est-ce qu'il faudrait mettre en place une dictature verte, et on a été assez surpris de voir en France qu'il y avait beaucoup plus de oui que ce qu'on attendait. Alors après, je précise, parce que ça a été beaucoup débattu pendant l'émission quand même, nous ne revendiquons pas une représentativité.
Non, non.
Les gens qui ont répondu au questionnaire,
que les gens qui décident d'aller sur votre
voilà.
Site.
Exactement. Ils sont nombreux, donc on a des... En fait, nous, ce qui va nous intéresser là, par rapport à ce qui a été dit aussi, c'est d'aller analyser les sous-groupes. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de gens, on est capable de dire, les gens qui pensent ça, quand on en a 10 000, contrairement aux 2 ou 3 qui sont dans des sondages représentatifs, qu'est-ce qu'ils pensent réellement sur des détails de questions? Et ça, c'est ce qui va intéresser les sociologues.
Donc on attend maintenant que vos sociologues se mettent à l'ouvrage. Merci Margot Missika d'avoir participé aujourd'hui au débat de midi. Ça me fait penser à cette phrase de Nicolas Hulot qui disait « Le monde d'après sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui et il le sera de gré ou de force. » Est-ce qu'il faut faire un passage en force, selon vous, Paula Fortezza?
Alors non, je pense pas. Pour revenir un peu à cette question des élections, c'est vrai qu'il y a eu un taux d'abstention énorme. Il faudra réfléchir à est-ce qu'il faut aller vers la reconnaissance du vote blanc, est-ce qu'il faut permettre aux jeunes de plus de 16 ans de voter, etc. Mais ce qu'on a vu aussi dans ces élections-là, c'est des listes citoyennes prendre le pouvoir finalement, par exemple à Marseille, à Lyon, etc. Donc tout ça, c'est des données qui nous donnent de l'espoir et qui montrent que les citoyens à tous les niveaux, les citoyens des quartiers, les citoyens de la jeunesse, les citoyens des mouvements sociaux, sont prêts aussi à jouer le jeu et à prendre des responsabilités. Je ne crois pas qu'il faille passer en force. Il faut faire confiance aux citoyens. Et pour qu'eux prennent des décisions responsables, il faut les responsabiliser. Il faut leur montrer qu'eux peuvent prendre des décisions. Quand on parle de budget participatif, par exemple, on les mettrait dans la position de prendre des décisions en leur expliquant, voilà l'enveloppe budgétaire qu'on a, voilà comment il faut prioriser, il faut faire des choix, voilà l'impact sur l'économie, sur la relance, sur les différentes catégories sociales que peuvent avoir vos choix. Et c'est en les mettant en situation que eux aussi vont monter en compétences et vont être de plus en plus responsables, comme on voit en Suisse, par exemple, avec la question des référendums. Donc, il faut développer ces dispositifs de
rendre
participation.
Rendre plus facile aussi la possibilité de faire en France un référendum. Absolument. Vincent Charlet, sur le site franceinter.fr, arrive un message qui illustre assez bien ce que vous racontez autour de l'ambiguïté de celui qui est à la fois consommateur, mais aussi intéressé par, évidemment, l'avenir de sa planète. Ce message qui nous dit « Bonjour, de mon point de vue, un monde d'après ne sera possible qu'avec le retour du respect des uns, des autres, des choses. Or, l'éducation nombriliste actuelle dans nos sociétés occidentales va à l'encontre de ce respect. Vision utopiste soit, mais plus concret, côté prix du gazole, je suis agent commercial et mon coffre est plein de matériel de démonstration, compliqué de prendre les transports en commun pour peu qu'il y en ait. J'adorerais avoir la possibilité de m'offrir un véhicule électrique de marque américaine. » Je ne citerai pas la marque, mais quid des enfants africains qui travaillent dans les mines pour récolter les minerais présents dans ces batteries? Vincent Charlet.
Ok, je dis pas que c'est simple.
Je dis que c'est
la seule voie possible. Il faut absolument réussir à résoudre cette équation, pardon de cette métaphore mathématique.
Vous êtes un économiste, mais... on vous en veut pas.
Oui, mais parce que je ne vois pas de scénario imaginable ou plausible qui ne passe pas par ce chemin-là. C'est-à-dire qui ne passe pas par la résolution de cette équation des prix, on va dire, ou des coûts, autour de l'écologie et de la pollution au CO2 ou au gaz à effet de serre. Donc ça, à mon avis, c'est absolument fondamental. Je me permets un point. Pendant le confinement et le choc qu'on a tous vécu, j'ai été frappé par le comportement de bâtisseurs de deux types de communautés, qui sont quantitativement pas forcément très très nombreuses, mais qui pèsent beaucoup, ce sont les militants politiques et les entrepreneurs. Et ils ont eu, il y avait beaucoup de points communs dans leur réaction, c'est-à-dire que pendant que nous, on s'enfermait un peu par peur aussi, et puis selon les consignes, et qu'on sentait l'économie vaciller, eux se sont retroussés les manches en disant « on y va ». On ne sait pas bien où on va, mais on y va. Il y a des nouvelles solidarités à inventer, il faut absolument que les vieux de notre commune aient leur plateau repas, et il faut que personne soit seul, etc. Et ils ont imaginé, phosphoré, vraiment mis au point beaucoup, beaucoup de solutions. J'aurais aimé que parmi les chercheurs économistes universitaires, il y ait la même profusion d'idées et surtout le même sentiment de travailler ensemble. Et pour moi, ça a fait défaut pour l'instant. C'est-à-dire, c'est un peu pour ça que chacun est
c'est
encore,
peut-être dans un second temps,
si je veux dire,
c'est
calé assez récent, sur son finalement. Monde d'avant. Oui, mais j'ai pas vu beaucoup d'initiatives pour travailler ensemble. J'ai pas vu beaucoup d'initiatives pour une réflexion transpartisane, par exemple. Pour imaginer justement ce que peut être ce monde d'après. Comme j'ai dit, les équations vont être un petit peu compliquées à résoudre et il y a besoin sans doute des intelligences collectives, des intelligences de tout le monde. Cette part du travail reste à faire.
Paula Fortezza, un mot de conclusion?
Ben comme on l'a dit à plusieurs reprises, faire confiance aux citoyens. On leur demande de nous faire confiance, en tout cas pour le politique. Il faut commencer par leur faire confiance.
Et Alex Dauchet, de Make.org.
Impliquer le citoyen à tous les niveaux, dans l'intelligence collective qui vient d'être évoquée, parce que c'est le seul moyen que finalement on aboutisse à une société où on est ensemble et non pas une société où on est séparés.
Mais on voit bien que ça a l'air compliqué quand même, le chemin est...
Ça n'est pas compliqué. L'implication est le meilleur moyen de créer l'appropriation. En revanche, l'appropriation par la communication, comme ça a été fait depuis 20 ans, ça ne marche plus.
Donc passons à autre chose.
Oui.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé aujourd'hui au débat de midi, d'avoir été là avec nous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis sur France Inter. Le débat continue avec le répondeur de France Inter 01 56 40 68 68. Demain, on s'intéressera aux tiers-lieux. Alors comme ça peut faire un peu peur. Les tiers-lieux, ce sont des espaces hybrides, à mi-chemin entre la maison et le lieu du travail, où s'inventent justement de nouvelles formes de travail, mais aussi de nouvelles formes de culture. Et puis je voudrais remercier toute l'équipe du débat de midi. Marjorie Bidot, Jules Thomas, Nathan Gallo, Mao de Bettler, qui m'aident à préparer cette émission, Lucie Lemarchand est à la réalisation et Muriel Pérez à la programmation musicale. Je vous rappelle le site de France Inter, le petit bouton Intervenez, vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages pour participer à l'émission. À la technique, aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.